Très bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Christophe Godin, je suis chercheur à l'INRIA et je suis responsable d'une équipe qui est à Lyon, au laboratoire reproduction et développement des plantes, qui est hébergé à l'ENS. Et je voudrais vous raconter aujourd'hui une relation étroite qu'il existe entre les motifs que fabriquent les plantes, qu'on appelle la phyllotaxie, je vous explique ça dans une seconde, et puis les mathématiques, en tout cas certaines branches des mathématiques, en particulier certains aspects de la théorie des nombres. Alors voilà, évidemment tout le monde a déjà vu des motifs comme ça, ils sont tout autour de nous. Ce qui est très, très remarquable dans l'organisation des organes le long des tiges des plantes, qu'on appelle la phyllotaxie, c'est que ça produit des motifs qui sont d'une régularité absolument étonnante, voire quasi mathématique. Alors cette idée, elle est un peu idéalisée, mais elle n'est pas si idéalisée que ça. Et en fait, quand on regarde de plus près, vous allez voir qu'on trouve des lois qui sont très très proches d'équations qu'on pourrait écrire en mathématiques. Alors, très brièvement pour commencer, je vous rappelle en un slide qu'est-ce que c'est que la phyllotaxie et comment les deux grandes familles qu'on trouve dans la nature. La première grande famille consiste à regarder les plantes qui ont un seul organe par nœud. Donc sur la tige est décomposée en nœuds et sur chaque nœud, vous allez trouver un certain nombre d'organes. Donc première grande classe de phyllotaxie, c'est quand il y a un organe sur chaque nœud. Donc voilà un certain nombre de phyllotaxies que vous allez voir, en particulier celle-là, qui est une très grande famille, qui est la classe des phyllotaxies spiralées. Et puis quand on trouve plusieurs organes par nœud, en fait on trouve d'autres classes de phyllotaxies, qu'on appelle par exemple opposés DQC, multijugués, etc. Donc l'idée n'est pas de rentrer dans le détail de toutes ces classes et puis de leur décomposition intime, mais plutôt de rester sur une classe, qui va être la phyllotaxie spiralée, qui est vraiment une très très large classe. C'est un tournesol, mais vous voyez que dans la nature, plein de fleurs, par exemple, présentent des motifs spiralés. Et si on regarde de plus près ces motifs spiralés, en fait, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses, de faits mathématiques, extrêmement simples, mais extrêmement étonnants. Alors, par exemple, prenons une pomme de pin. Je voulais vous apporter des pommes de pin. Des fois, je le fais dans les lycées. C'est assez rigolo parce que quand on fait la manip soi-même, on se rend et qu'on le fait, quoi. Eh ben, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas juste des idées comme ça. Ça peut se mesurer et on peut effectivement le constater sur des vrais objets, des vraies plantes. Donc, prenez une pomme de pin et puis vous voyez qu'il y a des spirales. Alors, tout d'abord, il y a des spirales dans deux sens. Donc, voilà un premier sens. Et voilà ce nombre de spirales-là. Il y a un certain nombre i. Et si vous prenez la même pomme de pin, vous apercevez qu'en fait, en regardant bien, il y a des spirales dans l'autre sens. Donc je les ai tracées pour vous, et donc elles forment un nombre j de spirales. Et en fait, la question, c'est de savoir, si vous prenez plein de pommes de pin, vous comptez i, vous comptez j sur un individu, et vous regardez ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez? Alors la plupart du temps, ce qu'on s'attend à trouver en biologie, c'est des distributions de nombres qui sont assez étalées. On va en reparler. En fait, si vous le faites sur plusieurs espèces différentes, spiralées, vous allez vous rendre compte que les spirales, vous allez en trouver dans un sens et dans l'autre, 2 et 3. Et puis sur d'autres plantes, 10 et 16. Et puis sur d'autres plantes encore 3 et 5. Et puis là, je ne vois plus très bien, mais 21 et 34. Donc vous allez trouver des nombres comme ça. Et ce que je vous disais, c'est que quand on prend, en biologie en général, quand vous prenez des valeurs quantitatives, par exemple la taille d'une cellule ou la taille d'un être humain, et puis vous tracez ça sur un histogramme, vous allez trouver des distributions qui sont assez bien distribuées, éventuellement il y aura un mode, donc une valeur centrale, et puis un étalement autour de cette valeur centrale. Donc c'est ce type de distribution qu'on s'attendrait à voir. Si vous faites cet exercice-là sur les nombres de spirales des pommes de pin et d'autres plantes, en fait vous obtenez des distributions qui sont comme ça. Aux erreurs de comptage près, évidemment. Vous voyez qu'elles sont très piquées et qu'il y a des plages entières où vous n'observez pas de valeur. Très proches éventuellement des valeurs que vous avez identifiées sur les objets réels. Okay ? Donc certaines valeurs sont très marquées et les valeurs juste à côté, ou beaucoup plus loin, ben, il n'y en a pas. Simplement, vous n'en observez pas. Donc ce genre de distribution-là, en biologie, c'est extrêmement rare. Enfin, c'est pas la distribution standard. Alors en fait, il se trouve que quand vous faites la somme des deux nombres de ces deux spirales, vous apercevez que vous trouvez le nombre d'une suite qui est la suite de Fibonacci, à savoir que les deux nombres, par exemple 5 et 8, vont donner 13, qu'ensuite 8 et 13 vont donner 21, 13 et 21 vont donner 34, etc. Donc ça, j'imagine que vous connaissez bien cette suite, que vous l'enseignez même, et que de façon récurrente, elle peut s'écrire par une loi de récurrence comme ça, où on dit qu'un terme d'ordre n est la somme des deux termes précédents et que la suite commence par les deux termes 1 et 1. Donc ça définit la suite de Fibonacci. En fait, il se trouve que quand vous mesurez les spirales sur des vraies plantes, vous obtenez deux nombres consécutifs de cette suite. Voilà. Alors, question, et comment c'est possible? Pourquoi? Alors, en fait, cette suite, elle a des propriétés intéressantes. Elle en a plein. Mais il y en a une en particulier qui va être très importante pour la suite de ce que je vais raconter, qui est que quand vous prenez deux termes consécutifs et que vous faites le ratio, donc par exemple le 1 et le 1, je fais le ratio des deux premiers termes, le second sur le premier, j'obtiens la valeur 1, ensuite le 2 sur le troisième sur le deuxième, j'obtiens la valeur 2, et puis je continue comme ça, 3 demi, je continue, et en fait je m'aperçois que j'obtiens une suite de nombres ici. Donc les fractions ont pour valeur ces nombres-là, et j'obtiens une suite de nombres qui a l'air de se rapprocher d'une valeur spécifique. Et il se trouve que cette valeur-là, donc je vous l'ai représentée graphiquement, 1, le premier nombre est là, 2, le deuxième nombre est là, 1,5 est là, 1,6 est là, etc. Et je me rapproche de la valeur rouge, là, et cette valeur rouge, c'est un nombre qu'on appelle le nombre d'or, qui est connu pour être la suite des ratios de termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Alors très bien, mais quel rapport avec les plantes? Alors il y en a un, il y en a plein, en fait. Et vous allez voir différentes manières d'y arriver. Alors la première chose, c'est ce nombre d'or, d'où il vient? Enfin, ok, on a vu qu'il était dans la suite, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme interprétation géométrique? Alors en fait, c'est simplement un nombre qui émerge quand on dit que le ratio... Quand on a un segment de droite, comme ça, et on dit qu'il est constitué de deux sous-segments, eh ben je vais dire qu'il y a une invariance du ratio entre le segment plus petit au moyen et du moyen au plus grand. Voilà. Donc si j'écris ça, j'ai le plus petit qui fait 1 moins L, la taille totale étant 1, le moyen fait L. Si j'écris l'équation qui dit que les ratios sont invariants, j'obtiens ça. Si je dis que le ratio, je l'appelle phi, ça va être donc... Ma variable cible, eh ben je peux écrire une équation qui aura cette tête-là, qui est en gros une équation du second degré. Et quand je résous cette équation-là, alors ça c'est sympa parce que le second degré, quand on est... Je sais pas, vous êtes prof de lycée, de collège? Les deux, un peu de tout. En tout cas, les équations du second degré, c'est un outil sympa à manipuler. Donc là, on y arrive assez facilement avec des lycéens. Donc on converge vers ce... Le ratio, quand on écrit cette contrainte-là, on dit, bah, voilà, le ratio entre ces deux longueurs-là doit être 1 plus racine de 5 sur 2, qui vaut 1,618. Alors, étant donné ce ratio, maintenant, si je re-regarde les longueurs que j'ai trouvées ici, que je les réexprime en termes de ce ratio, bah, je m'aperçois que le jaune-là, il vaut 1 sur phi, et c'est 0,618, et puis l'autre, c'est le complémentaire. Et il se trouve que le complémentaire, par les propriétés mathématiques de ce truc-là, ben en fait, c'est 1 sur phi au carré, et ça vaut 0,382. Alors, là, on va commencer à revenir un petit peu vers les plantes. Parce que les plantes, en fait, ça ne se présente pas comme des barres. Ça se présente plutôt comme des choses circulaires, donc avec une notion de périodicité. Et quand vous allez... comment on peut passer de ça à une chose circulaire? Ben simplement, je vais le tordre, et je vais... prendre cette barre, je vais la tordre et je vais la faire reboucler sur elle-même, mais je vais garder les longueurs exactement comme elles sont. Donc la longueur jaune, c'est celle-là, et la longueur rouge, c'est celle-là. Donc les arcs de cercle ici ont les mêmes longueurs. Donc là, en particulier, la circonférence du cercle a la valeur 1. Et maintenant, je regarde l'arc de cercle l'angle qui intercepte l'arc de cercle rouge. Et ce que je m'aperçois, c'est que bah, il va être égal à 0,382, puisque c'était la valeur qu'on avait trouvée là. Et cet angle-là, si je le transforme, donc ça c'est 0,382 en unité tour, donc de 1 tour, et quand je le transforme en degrés, en multipliant par 360, je m'aperçois que ça fait 137,5 degrés. Et 137,5 degrés, c'est ce qu'on appelle l'angle d'or. C'est le nombre qui a été mis en avant dans la catégorie des angles qui reflète la notion de nombre d'or dans la catégorie des nombres simples. Alors, en fait, il se trouve que on a des spirales dans les plantes et qu'on s'aperçoit que le nombre de spirales qui tournent à gauche et à droite sont deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Et ça, ça a l'air d'être une loi relativement universelle dans le monde végétal. Mais pourquoi, donc, on peut se poser la question, pourquoi les plantes font-elles des spirales ? Déjà, même avant de savoir que c'est des nombres de Fibonacci, pourquoi ça fait des spirales ? La deuxième question qui suit derrière, c'est, bah, d'accord, ces spirales-là, elles ont des propriétés particulières, et elles suivent, on observe qu'elles suivent des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Donc c'est une deuxième question. Et puis la troisième question, c'est que l'angle d'or, en fait, on s'aperçoit que c'est l'angle le plus fréquemment, le plus communément observé entre deux organes consécutifs sur la tige d'une branche. Donc si vous allez dehors, vous regardez des feuilles de lierre, etc., vous regardez l'angle qu'il y a entre deux organes, très très souvent, vous allez trouver un nombre qui est proche de 137 degrés, qui est donc, qui a quelque part quelque chose à voir avec l'angle d'or. Et donc ça fait une troisième question qui est pourquoi les plantes ont-elles tendance à faire des angles qui sont liés à l'angle d'or. Et comme toutes ces choses-là, via les mathématiques, sont liées, on peut se dire que bah, quelque part, cette liaison, elle existe aussi du côté des plantes. Alors je vais vous raconter un petit peu cette histoire-là. Étant donné la taille de l'exposé, vous allez voir, il y a déjà pas mal de choses. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va traiter quand même une grosse partie. Alors, ce que je vous disais au début, c'est qu'en fait, chez les plantes, les motifs que vous voyez, moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai été assez sidéré. En fait, ils reflètent des propriétés mathématiques de nombres en mathématiques. Et c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et du coup, qui a fasciné beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens, de physiciens. Presque 200 ans maintenant, date du début à peu près des commencements de la biologie quantitative au sujet de la phylotaxie. Alors, si on veut comprendre un petit peu comment ça marche, eh ben, il faut aller voir de plus près comment pousse une plante. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de biologie. Alors, moi, je pourrais essayer de m'en rappeler, mais en fait, je crois que je n'ai pas eu l'explication de comment pousser une plante ou alors j'étais malade toujours là, je ne sais pas. Les plantes poussent par l'extrémité de la tige. Elles ne poussent pas par le milieu, ou alors vraiment au tout début, quand les organes viennent d'être mis en place. Mais une fois que, très vite, tous les organes s'arrêtent de croître, et en fait, les seules choses qui continuent de croître, c'est l'extrémité de la tige. C'est ce que je vous ai signifié par cette espèce de zoom. Vous prenez l'extrémité d'une tige, là, vous allez voir au cœur de cette extrémité, et si vous faites un zoom, donc là, c'est même en microscopie, vous apercevez qu'il y a une petite population de cellules qui en fait se divise de façon permanente et qui produit des organes qui sont les jeunes organes qui vont ensuite grandir et devenir les organes latéraux que vous voyez là. Alors soit des fleurs, soit des feuilles, ça peut être des épines, ça peut être plein de choses différentes. Donc cet organe-là, je l'appelle l'apex ou le méristème, c'est un nom un peu spécifique. Donc rappelez-vous juste que c'est l'endroit où naissent les organes. Alors ce truc-là, il a la taille d'une tête d'épingle. Donc c'est très petit, c'est quelques dizaines, centaines de microns. Okay. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller y voir un petit peu au microscope. Alors, juste un petit point là-dessus. En fait, aujourd'hui, la recherche se concentre, on va moins parler de la recherche en cours, mais la recherche se concentre sur l'étude des propriétés de cet objet-là, et à l'échelle, à la résolution cellulaire. C'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur des tissus, on essaie de comprendre comment les gènes fonctionnent là-dedans et comment les cellules se parlent pour arriver à faire ces petits organes. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que souvent, quand le système est en régime relativement stable, stationnaire, en fait, il va produire des organes avec un angle entre les différents organes, donc entre le plus vieux, le moins vieux, et puis le tout jeune ici, vous voyez, il y a un angle alpha entre les différents organes. Et depuis quasiment tout le long de la croissance de la plante, cet angle va rester à peu près constant. Alors, il y a des variations là, mais il va rester à peu près constant. Si maintenant je regarde ce que ça a produit sur la tige développée, vous voyez qu'il y a des feuilles tout le long de la tige qui ont à un moment été des bébés feuilles produites par ce système-là. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'angle à la naissance, c'est le même que l'angle quand les organes sont adultes. Alors ça, il y a une raison forte, c'est que chez les plantes, les cellules sont engoncées dans une matrice de cellulose, elles ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Et du coup, bah, les choses qui sont mises en place, en général, restent relativement stables dans leurs relations géométriques les unes vis-à-vis des autres. Donc, le fait que ça produise des organes de façon séquentielle ici fait que ça va engendrer une hélice qu'on appelle l'hélice génératrice et dans laquelle chaque organe va être séparé du précédent par une quantité alpha. Si je prends cette hélice génératrice maintenant et que j'identifie une feuille, je me fixe sur une feuille particulière et je voudrais en fait me donner un moyen de calculer cet angle. C'est-à-dire, je prends une plante dehors et je me dis comment je peux estimer l'angle entre deux feuilles. Alors soit je prends un rapporteur puis j'y vais à la dure, soit je prends une méthode un peu plus subtile qui consiste à prendre la première feuille là, à regarder un peu plus haut une feuille qui tombe à peu près au-dessus de celle-là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire simplement compter le nombre de tours que j'aurais fait pour passer d'une feuille à l'autre. Et ensuite, je vais compter le nombre d'organes. Et puis, je vais dire si l'angle est à peu près constant, et ben, en gros, la valeur de cet angle, ce sera le nombre de tours divisé par le nombre d'organes. Bon. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de commencer à comprendre pourquoi on a des spirales. En fait, si vous imaginez que vous êtes capable de compresser cette partie-là comme un télescope, en fait, vous voyez que les deux organes qui sont l'un au-dessus de l'autre ne sont pas exactement l'un au-dessus de l'autre. Quand ils sont loin, on a l'impression qu'ils tombent pile, mais en fait, non, ils ne sont pas pile. Et quand vous compressez la structure, ça, on le voit par exemple chez les fleurs, où les entre-nœuds, là, les intervalles interfeuilles sont peu développés, et bien vous vous apercevez qu'effectivement, on voit ce genre de spirale. En fait, ça traduit le fait que bah, régulièrement, il y a un organe qui revient au-dessus d'un premier, mais un petit peu décalé. Alors, ce que je vous propose, et ça c'est une séquence que je fais de temps en temps avec les lycéens, c'est en fait pour comprendre un peu comment marche ce système-là, bah, c'est d'en faire un petit modèle. J'espère que ça va marcher parce qu'on a eu du mal à faire le changement d'écran tout à l'heure. De faire un petit modèle qui va nous permettre de tester les idées et d'essayer de comprendre de pourquoi ces organes se décalent, de combien ils se décalent, etc. Donc, je vais prendre la zone centrale, ici, du méristème. Et cette zone-là, c'est une zone dans laquelle jamais aucun organe ne peut croître. Il ne peut pas y avoir d'organes dans cette zone. Les organes, vous voyez, ils arrivent plutôt sur le côté. Donc, je vais la formaliser par un rond vert. Et maintenant, je vais faire des hypothèses très simplifiées sur la manière dont croît le système. Donc je vais dire, quand il y a un organe qui est représenté par un petit rond rouge qui est créé sur le flanc de cette zone, une fois qu'il est créé, il va partir, il va s'éloigner par la croissance et par les divisions cellulaires, il va s'éloigner du centre à une certaine vitesse V que je vais considérer comme constante. Donc il va s'éloigner. Et puis, au fur et à mesure qu'il va s'éloigner, il va y avoir de la place pour un nouvel organe pour apparaître. Mais plutôt plutôt de l'autre côté du méristème. Alors il y a un autre organe qui va apparaître, et il va y avoir un angle alpha entre ces deux organes. Et à son tour, ce deuxième organe va s'éloigner du centre avec une vitesse V. Alors on va compter les angles, non pas en degrés comme habituellement, mais plutôt en tours, parce que ça va nous permettre d'éliminer tout le côté calcul modulo 60, et on va rester sur des chiffres qui vont souvent être représentés par des fractions, donc ça va être très, très pratique. Et on va donner comme paramètre à notre système deux paramètres, la vitesse et puis la périodicité à laquelle les organes vont être générés. D'accord ? Alors, on va essayer de faire une petite simulation. Donc, j'ai... je ne sais pas si je vais arriver... Voilà. Ah non, vous ne voyez pas. Alors je crois que je vais être obligé d'arrêter la présentation. Bon, je vais le faire qu'une fois. J'avais prévu de le faire plusieurs fois, mais si c'est le même cinéma à chaque fois, on va minimiser les allers-retours. Donc là, c'est un petit programme qui permet de simuler le petit modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, comment on fait ? Ben, on prend le centre ici. Je m'éloigne un peu pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Et puis, ici, là, sur le côté, vous voyez, je peux contrôler l'angle alpha que je vais mettre entre deux organes successifs. Et j'ai mis sous forme d'un numérateur et d'un dénominateur. Alors au début, je vais mettre un angle, 1 pour le numérateur, 2 pour le dénominateur, donc 1,5, et je simule ce que ça donne. Donc voilà la simulation. Alors vous voyez, au fur et à mesure, donc les organes sont générés, et au fur et à mesure qu'ils sont générés, ils s'éloignent, ce qui laisse la place pour d'autres organes pour apparaître. Et donc pas de scoop, là ce qu'on attendait arrive, c'est-à-dire que les organes s'éloignent de part et d'autre sur une ligne droite. Alors maintenant si je change un petit peu les angles, je mets un tiers, donc qu'est-ce que vous attendez qui arrive ? Ben, on va avoir un tiers de tour qui va être fait à chaque fois, et puis comme les organes s'éloignent, ben, ça va finir par se développé sur trois segments de droite différents. Alors je vais continuer, je vais mettre... Alors maintenant je vais mettre 13e, à votre avis. 13 tiers. Je vous laisse une seconde pour l'imaginer. Ben, ça refait les trois bras, parce qu'en fait c'est une fraction qui est plus grande que 1, donc en fait il faut la ramener à la fraction qui est directement inférieure à 1. Ensuite, si je fais 2 quarts, ça c'est très facile. Je le fais parce que c'est quelque chose que qu'on peut faire avec des lycéens, comme ça les oblige un peu à manipuler des notions qu'ils ont vues en cours. Donc 2 quarts, c'est comme 1,5. Ensuite, 1/5. Donc là, vous devez commencer à avoir compris le truc. Donc ça fait 5 bras. Et toujours pareil, des bras bien droits, puisque tous les 5 tours, je reviens sur la direction initiale. Ensuite, 2/5. Des idées ? Ça fait 5 bras. La différence là, quelqu'un l'a vu ? Ben c'est que quand j'ai fait 1/5, le premier organe était généré là, celui d'après sur la branche d'après, celui d'après sur la branche d'après. Quand je fais 2/5, le premier organe est généré là, mais le deuxième est généré sur 2 branches après. Donc en fait, j'intercroise les branches, quoi. Mais en gros, le motif d'ensemble ne change pas. Et après 3/7, par exemple, alors là, vous devriez être capable de le dire du premier coup. Ben, ça fait 7 bras qui sont droits, et puis on passe d'un bras au troisième bras, etc. Et on tourne. OK ? Très bien. Alors, je suis désolé, mais je pense que je reviendrai plus sur le petit programme, là. Déjà que j'arrive à retrouver la présentation. Puis en plus, ça prend du temps à chaque fois pour revenir. Voilà. Donc, ce qu'on observe, ce qu'on a envie de dire, suite à ça, c'est que quand j'ai une fraction, donc je la prends déjà plus petit qu'un pour la normaliser un peu, je la prends réduite aussi, parce que c'est pas la peine de prendre les fractions non réduites, et donc si j'ai une fraction, j'ai envie de dire que ben, le motif que j'attends de voir, c'est une étoile avec Q bras, Q étant le dénominateur de la fraction. Alors, évidemment, ça, c'est ce qu'on a envie de conclure quand on n'a pas beaucoup exploré le système. Mais si on va plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un mais, et que ça ne marche pas aussi simplement que ça. Alors, quel est le mais ? Ben, prenons, par exemple, le cas de la fraction 2/5. qui vaut 0,4. Et cette fraction-là, donc je voulais vous le faire aussi par programme, on va rester dans l'exposé, cette fraction-là, quand je vais modifier un tout petit peu 0,40, je vais faire 0,401, je crois. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va faire. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? 0,401 au lieu de 0,40. Voilà. Effectivement, ça va commencer à faire apparaître des courbures dans les bras. Alors, évidemment, quand on a vu ça, on a envie de jouer un peu avec le système. On a envie de changer un peu les valeurs. Donc, si je vais 0,405, ben, je m'aperçois que ben, je tords les bras un peu plus. Si je fais 3 septièmes, qui est 0,428, ah tiens, c'est bizarre, je retombe sur un truc qui est droit. Alors, pourquoi de temps en temps j'ai des trucs qui se courbent et de temps en temps j'ai des trucs qui sont droits? Et puis je continue, 0,43, bah de nouveau je suis courbé. Et donc quelle est l'explication? Alors déjà, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est pourquoi ça se courbe. Alors pourquoi ça se courbe? Bah en fait, on s'aperçoit que si on prend l'origine, donc celui-là c'est le premier point qui a été simulé, hein, puisqu'il est, c'est celui qui est allé le plus loin. Voilà. Donc si je prends l'origine et je regarde avec l'angle de 3 septièmes, combien j'ai mis de temps pour revenir près de l'origine? Eh bien, je m'aperçois qu'après 7 organes séparés de alpha, hein, puisque c'est 3 septièmes, donc j'ai 1 septième, 1 septième, 1 septième, et 7 fois pour revenir au début, eh bien, je m'aperçois que j'y reviens après 7 tours, et c'est ce point-là. Quand j'ai 3 septièmes plus un petit bout, un petit quelque chose, eh bien, en fait, c'est presque ça, sauf que je fais 7 fois mon 3 septièmes plus epsilon, et donc à la fin, je me retrouve avec 3 tours plus 7 fois epsilon, plus 7 petits bouts. 7 petits bouts. Et du coup, ça me fait un petit décalage, là, qui est un décalage de 7 epsilon. Et ce truc-là, ben, ça va se reproduire récursivement à chaque fois, et ce qui fait que ça va me faire mon décalage progressif et qui va m'engendrer cette courbure du bras. Alors, donc on voit à peu près d'où peuvent venir les spirales. Quand j'augmente la valeur de alpha, ben, tant que je reste pas trop, tant que je l'augmente pas trop trop fort, en fait, je courbe les bras, ici. Maintenant, si je prends la valeur de 0,43, je m'aperçois qu'en fait, 0,43, je peux l'écrire sous la forme 43 centièmes. Et d'après la règle qu'on avait vue au début, enfin, la règle intuitive qu'on avait construite, quand j'ai une fraction irréductible, le dénominateur devrait être le nombre de bras, c'était ça la règle qu'on avait choisie. En fait, je m'aperçois que là, j'ai 100 et là, j'ai 7 bras. Et d'où ça vient? Où est, enfin, qu'est-ce qui fait que j'ai pas, je ne vois pas 100 bras? Alors, pour regarder ça, on va d'abord s'apercevoir qu'il est possible de courber les bras d'une autre manière. La première manière, c'était de changer l'angle. Mais il y a une autre manière qui consiste à réduire la période entre l'arrivée de deux organes. Donc je vais aller, je réduis la période, donc je vais aller plus vite. Au lieu de faire ça, je génère mes organes, tac, 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 ok? Et quand je génère mes organes plus vite, en fait, je m'aperçois que ben, je vais avoir des organes qui vont avoir moins le temps de s'éloigner les uns des autres, et du coup, je vais avoir une tendance à courber mes bras. Alors si, donc là, j'ai mis la valeur de la période, et vous voyez que quand je vais la diminuer, eh ben, je vais obliger mes bras à rester proches les uns des autres. Je mets plus de points, en fait, je meuble plus l'espace. Et il va y avoir un moment, vous voyez, je suis à t égale un 500ème de la valeur de départ, là, et il va y avoir un moment, quand j'arrive à 1 millième, j'aurai tellement diminué la période que mes bras vont se replier sur eux-mêmes, et en fait, ils vont faire apparaître des nouvelles spirales. Et il se trouve que si vous le comptez, eh ben, vous en avez 100. Donc en fait, il y a la possibilité de faire apparaître vraiment ces 100 bras simplement en augmentant la vitesse à laquelle je génère mes organes. Okay. Donc ils étaient là, mes 100 bras, sauf que je ne les voyais pas. Mon système s'était trop étendu dans l'espace. Alors que si je le garde contracté, eh bien, je vois effectivement apparaître mes 100 bras. Ah oui, d'accord, mais alors du coup, d'où viennent mes 7 bras là? 100 bras, c'était bien attendu, ça on avait bien vu qu'il y avait cette règle-là, c'était assez facile à comprendre, mais d'où viennent les 7 bras? En fait, pour comprendre d'où viennent les 7 bras, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Vous direz vous-même si vous pensez qu'elle est vraie ou pas. Donc j'étais chez un ami et il m'avait préparé une tarte. Et il avait prédécoupé la tarte en 8 parts, et donc la taille d'une de ces parts était exactement d'un huitième. Et puis il me dit, voilà, j'ai fait ma tarte, c'est une tarte tatin à la tomate, et combien est-ce que tu en veux ? Et moi, je ne savais pas très très bien ce à quoi je devais m'attendre, j'avais une moyenne faim, donc j'ai dit, bah, je voudrais un tiers. Et alors, vous voyez bien qu'un tiers, ça ne tombe pas pile sur un multiple de 1 huitième. Alors là, mon ami est très embêté, et il se pose la question de savoir combien il doit me donner de tarte, parce qu'il n'avait pas envie de la redécouper, la tarte. Okay, il aurait pu faire ça, mais ça gâchait son travail. Donc pour éviter de redécouper la tarte, il se pose la question de savoir comment satisfaire ce qu'il me demande de la façon la plus optimum possible. Ben, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit il me donne 2 parts et il me sert avec 2 huitièmes, soit il me donne 3 parts et il me sert avec 3 huitièmes. Et évidemment, il est malin, il dit, si je veux le satisfaire au mieux, ben, je vais prendre le chiffre qui est le plus proche de 1 tiers, qui est, en l'occurrence, 3 huitièmes. Donc je vous représente ça sur un petit segment de droite. Et on s'aperçoit que, effectivement, le 1 tiers étant là, le 3 huitièmes est plus près que le 2 huitièmes. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que pour une fraction donnée, un tiers, je vais me donner un chiffre, des tailles de parts, qui sont un huitième, et je vais essayer de trouver quelle est la meilleure fraction composée de ces fractions de parts, de un huitième, qui est le plus proche possible de mon nombre rationnel. Et donc c'est ça qu'on fait là, c'est la meilleure approximation de un tiers qu'on peut faire avec des morceaux de tarte ou de taille un huitième. Et en fait, cette idée-là, expliquer comme ça sur une tarte, ça a l'air presque ridicule, parce qu'on se dit, ah, quand même, c'est pas tout à fait... Alors, c'est pas totalement vrai. La tarte tatin, c'est vrai, mais c'est pas le reste de l'histoire n'est pas totalement vrai. En fait, cette notion de quelle est la fraction ayant un dénominateur donné, donc qui donne la grosseur de la part que je veux considérer, quelle est la fraction qui est la plus proche d'un nombre donné, en fait, c'est une question clé qui est à la base de tout un développement dans le cadre de la théorie des nombres, qui en particulier passe par la théorie des fractions continues, qu'on va voir un petit peu. Alors, ça marche avec n'importe quel nombre, ça. Des nombres rationnels, d'ailleurs, comme des nombres irrationnels. Donc, si, par exemple, je prends 43 centièmes, et je regarde quels sont les nombres qui sont les plus proches de 43 centièmes, ben, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de nombres qui sont 0, 1/2, 3 septièmes, 43 centièmes. Et toutes les autres fractions seront moins bonnes au niveau de précision que donne la fraction. Donc, par exemple, pour 1 septième, je donne un maximum de précision de 1 septième. Ben, toutes les autres fractions qui sont avant, elles seront moins bonnes que 3 septièmes. Voilà. C'est pour ça que ce nombre-là est le meilleur. Et 43 centièmes, finalement, puisque c'est la valeur finale. Alors, elles sont meilleures, ces fractions, mais exactement dans quel sens? Donc, je vous propose de focaliser un petit peu là-dessus. Si je prends la fraction 1/2, en fait, la fraction 1/2, je vais la retrouver en ayant une période assez large, assez grande, et en mettant peu d'organes. Et en fait, je vais mettre 2 organes pour revenir au début, et je m'aperçois que l'erreur que je vais faire avant de revenir au début, au moment où je reviens au début, est très grande. C'est l'erreur que j'ai mentionnée ici. Et en fait, si je veux la calculer, ça s'appelle l'erreur retour. En fait, elle fait 2 fois 1/2 moins 0,43. Donc 1/2 moins la valeur finale qui est cible. Et donc cette différence-là, je la multiplie par 2 parce que j'ai fait 2 organes, et ben, au bout d'un tour, j'ai fait 0,14 d'erreur. Si maintenant je fais la même chose avec 3 septièmes, en fait, l'erreur est beaucoup plus petite et on peut la calculer. On a fait 3 septièmes moins 0,43, 3 septièmes moins 0,43, mais j'ai mis 7 coups pour y arriver. Et donc, je suis obligé de multiplier par 7 et mon erreur est de 0,01. Donc, ce chiffre de 3 septièmes est bien une bien meilleure approximation de 0,43 que 1/2. Alors en fait, comment on peut les trouver, ces chiffres? En fait, il faut imaginer que je mets au tableau toutes les fractions par ordre de grosseur des dénominateurs. Donc la première, ça va être 0 sur 1. La deuxième, ça va être 1 sur 2. La suite, ça va être 1 tiers et 2 tiers. Donc toutes les fractions avec le dénominateur 4, toutes les fractions avec le dénominateur 5, toutes les fractions avec le dénominateur 7, etc. jusqu'à 99. Okay ? Après, j'arrive à 100. Donc je mets toutes mes fractions au tableau. Et maintenant, je les parcours toutes dans l'ordre. Et je regarde si l'erreur que j'ai commise quelle est l'erreur que je commets. Donc la première fraction que je trouve, c'est 0. Bah, c'est une approximation pour la taille 1 de mon nombre 0,43. Maintenant, je cherche un nombre qui est meilleur que ça en termes d'approximation. Bah, je parcours mes fractions et je trouve tout de suite un demi qui est meilleur que 0 parce que je fais une erreur de 0,14 avec un demi. L'erreur retour. Et puis je continue. Je fais tous les chiffres là et je m'aperçois que c'est pas meilleur. Et puis j'en ai un là qui est à 0,40. Donc 0,40, ça a l'air meilleur que 0,5 pour approximer 0,43. Sauf que l'erreur retour est plus grande que l'erreur qui était faite avant. Donc celui-là, je ne le prends pas. C'est en ça que ces fractions qui approximent un nombre, elles sont extrêmement... Enfin, la condition d'approximation est assez stringente. Maintenant, je prends 3 septièmes et je m'aperçois qu'avec 3 septièmes, je vais avoir un nombre qui est 0,42, donc qui est pas mal par rapport à 0,43. Et je recalcule son erreur retour. Ah oui, là, elle est bonne. Elle est de 0,01. Donc celui-là, je le garde. Voilà. Et à la fin, j'arrive. Et donc, quand vous faites tout ça, vous parcourez tous ces chiffres-là, et bien vous retrouvez avec une suite de fractions, là, qui est de plus en plus fine, qui est qui est de plus en plus meilleure approximation du nombre de départ. Et cette suite de fractions s'appelle l'ensemble des fractions convergentes du nombre de départ. Donc en l'occurrence de 0,43. Alors c'est un résultat, c'est qu'il existe une unique suite de fractions comme ça pour tous les nombres réels. Donc en particulier les rationnels. Alors, donc voilà, je me retrouve avec mon 43 centième et j'ai réussi à trouver une suite de fractions qui l'approxime de mieux en mieux. Et ce qui se passe, c'est que quand je diminue ma période, en fait, je vais vers la droite, vers ces fractions. Donc quand ma période est trop basse, ben en fait, je ne vois que ce numérateur-là parce que je n'ai pas un découpage assez précis de mon cercle pour pouvoir voir apparaître 100 bras puisque je fais des pas de 1 septième. Okay ? Donc c'est pour ça que je ne les vois pas, les pas de 100. Par contre, si je me donne plus de moyens, que je découpe en plus petites parts, et bien à un moment, je vois apparaître mes 100 bras ici. De l'autre côté, si j'augmente ma période, et bien en fait, je vais avoir moins de points et je vais avoir que deux bras qui vont partir, un comme ça et un comme ça, et je vais avoir des fractions qui vont être plus grossières, qui vont m'approximer mon 0,43 de façon plus grossière. Donc en fait, en réduisant le plastochrone ou la période, on s'aperçoit qu'en fait, on navigue à travers la série des convergentes du nombre qui est le nombre qui nous sert à séparer les différents organes. Ok ? Est-ce qu'il y a une question là ? Est-ce que ça va ?
Juste, il n'y en a pas d'autres entre 3 septièmes et 43.
Non, non, c'est ça le point en fait. Voilà. Alors, je peux même vous... Si on peut faire peut-être... Ouais, quelle heure il est ?
Moins le quart.
On a commencé à 10, on peut avoir jusqu'à 10 ? On négocie d'abord, oui. Je peux vous expliquer brièvement qu'on... Alors évidemment, on ne fait pas le crible, on ne va pas regarder toutes les fractions, une par une, et on fait le calcul. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule cette série-là. En fait, il y a un moyen beaucoup plus pratique pour le calculer, qui est de faire quelque chose qu'on appelle la décomposition en fraction continue d'un nombre. Alors là, je vous ai pris un nombre rationnel. En fait, ça marche aussi pour tous les nombres, y compris les nombres irrationnels. Alors, l'idée, c'est qu'il est possible d'écrire toute fraction comme dans cette forme d'écriture-là, où on voit que le nombre, c'est d'abord une partie entière, puis un reste qu'on va écrire récursivement comme une partie entière de l'inverse plus un reste, etc. OK ? Alors, ça, croyez-moi sur parole, c'est juste qu'il est possible d'écrire, de trouver une suite de nombres A0, A1, A4 qui permettent de décomposer tout nombre. Cette écriture-là, En fait, on la note x, qui est le nombre de départ, égale la suite de nombres qui composent la fraction continue, son développement en fraction continue. Alors, le truc qui est rigolo avec ces fractions continues, c'est d'abord, vous allez voir, le calcul, on les obtient très très simplement. Et aussi, ça donne des approximations successives quand on enlève des bouts de la fraction. Alors par exemple, je vous prends 7 vingtièmes. Son développement en fraction continue, c'est 0, 2, 1, 6. Donc la fraction continue s'écrit comme ça. Ça, je peux le calculer. Si je le calcule, ça, ben, je retrouve 7 vingtièmes. Mais si j'enlève des bouts, donc par exemple, j'enlève toute la partie droite à droite du 0, ben, j'obtiens 0. Donc c'est la première approximation de 7 vingtièmes. Si maintenant je ne garde que le 2, j'obtiens 1 demi. Et vous voyez que c'est la deuxième approximation. Si je ne garde que le 1, après, enfin le 2 et le 1, ben, j'obtiens 1 tiers. Et puis si je garde tout, ben, j'obtiens mes 7 vingtièmes. Okay.